Alors nous revenons à la philosophie, pour essayer de voir ensemble ce problème qui est au fond peu traité, mais que je crois quand même très important, de situer ce que nous avions déjà vu l'année dernière à Saint-Jean-d'Arc, situer les trois niveaux d'éthique. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, bien que ce soit pas très commode et que ce soit quelque chose qui pose certaines questions. Ces trois niveaux d'éthique, le niveau proprement de l'analyse philosophique, l'éthique philosophique, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, qu'il faut lui donner un nom, qui est tout entière tournée autour de l'expérience de l'amour d'amitié. Après Nietzsche, je crois que c'est difficile de trouver un autre point de départ pour l'éthique humaine. Vous voyez, ce serait intéressant au point de vue historique de bien comprendre comment Kant, ayant perdu le sens de la finalité, c'est déjà vrai pour Descartes. Dès qu'on a perdu le sens de la finalité, peut-il y avoir encore une éthique ? Oui. Problème critique. S'il n'y a plus de finalité, peut-il y avoir encore une éthique ? Sur quoi peut-on fonder une éthique qui n'est plus une éthique de la finalité ? C'est-à-dire une éthique où la nature n'existe plus. On peut dire qu'à partir de Occam, la nature comme telle a disparu. Les disciples d'Occam, au fond, ont essayé de donner une éthique, comme Occam était chrétien, ça pouvait encore aller, une éthique positive sur la loi. Ça peut se donner. On peut avoir une éthique basée sur la loi, et non plus sur la nature. Comme Descartes, lui, reprend le problème philosophique à sa racine, c'est ce qu'il veut, face à la théologie. Une éthique, une philosophie qui puisse, en quelque sorte, répondre à certains problèmes scientifiques. Descartes cherche sur quoi on peut fonder le point de vue éthique. Vous savez que c'est très difficile, puisque pour lui, l'amour, c'est uniquement un amour passionnel. Et donc, pratiquement, c'est cette volonté d'efficacité qui va fonder l'éthique. C'est pas très développé chez lui, mais ça va être tout son problème de la liberté, je crois. C'est Kant qui, lui, a compris beaucoup plus fortement la nécessité de fonder l'éthique sur l'impératif catégorique, donc sur le devoir. Pour essayer de voir qu'à partir de là, on peut réintroduire, si vous voulez, ou sauver une éthique traditionnelle, une éthique qui rejoint le point de vue chrétien, puisque Kant est chrétien. Et c'est l'impératif catégorique qui, pour lui, permet à la conscience d'avoir une détermination suffisante pour comprendre ce qu'est l'activité morale. Et l'activité morale, alors, chez lui, liée à l'attitude religieuse, puisqu'au fond, l'impératif catégorique n'aura toute sa signification que dans la mesure, justement, où il sera comme une intervention de Dieu sur notre volonté. On trouvera ça très nettement dans sa voie d'accès vis-à-vis de l'existence de l'être premier. Ce sera par le point de vue moral, et ce sera par ce lien de l'impératif catégorique et de l'influence de Dieu sur nous. C'est cela que Nietzsche ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter que l'homme soit asservi à une réalité qui le dépasse complètement, Dieu, puisque pour lui, Dieu, on ne doit pas en parler. Existe-t-il pour lui, n'existe-t-il pas? Au fond, on ne doit pas en parler. C'est en dehors du point de vue philosophique. Ça, c'est très net. On peut se demander s'il est resté dans la pensée de Nietzsche une espèce de soif mystique, comme certains le disent. C'est très possible. Mais au fond, il est en dehors. C'est le problème de l'athéisme qui commence à se développer, qui, pour lui, fait qu'au point de vue philosophique, on ne peut pas parler, pas fonder une éthique sur Dieu. Il faut chercher sur quoi va être fondée l'éthique. Alors, ce sera sur le problème de la créativité et le problème de la connaissance artistique sur laquelle on va essayer de fonder l'éthique. Ça n'a pas été très développé, mais ce qui est sûr, c'est que pour lui, une éthique fondée sur le problème de Dieu et l'existence de Dieu, ça n'a pas de sens. C'est mettre l'homme dans un état d'asservissement, et donc un état insupportable. Pouvons-nous pousser le point de vue de Nietzsche jusqu'au bout? C'est toute la question. Vous savez ce que dit Heidegger quand il dit « Nietzsche a poussé la métaphysique », je le prends du point de vue métaphysique, mais on pourrait le dire au point de vue philosophique aussi. Nietzsche a poussé la métaphysique jusqu'au bout, à un point tel qu'on touche une limite, qui, d'une certaine manière, la philosophie n'existe plus, la métaphysique n'existe plus. Un mensonge. Parler de l'être, c'est un mensonge. Donc, il faut tout reprendre. Et c'est ce que essaie de faire Heidegger. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on est devant une situation limite. Il faut donc essayer de tout reprendre. Je crois que c'est l'intérêt, au point de vue philosophique, de la situation dans laquelle on est. C'est que tout a été tellement rodé qu'on est obligé de tout reprendre. On ne peut plus aujourd'hui continuer à prendre un manuel scolastique et puis voir, d'après ce manuel scolastique, ce qu'est l'éthique, ce qu'est la philosophie de la nature, ce qu'est la métaphysique. C'est imbuvable, je crois, pour la plupart des esprits. Il y en a encore quelques-uns. Toujours, ça y aura toujours, mais je crois que c'est imbuvable parce que ce n'est plus la recherche propre de notre monde d'aujourd'hui. Où avec l'existentialisme, on a redonné le sens très fort de l'expérience, d'une expérience interne, c'est sûr, mais on a redonné très fort le sens de l'expérience, où on est en face de sciences positives, il faut essayer de reprendre le problème de façon beaucoup plus radicale. Et c'est, je crois, ce que nous devons essayer de faire. Alors, on peut se poser la question, est-ce que nous pouvons, en continuant Nietzsche, fonder une éthique? Pour Nietzsche, ce qui est premier, c'est l'activité artistique. Il ne s'agit plus de nature, hein, il n'y a plus de nature, ça c'est bien évident. Il n'y a plus non plus, au sens strict, de finalité. C'est l'art qui commande tout. Vous voyez, quand Monod dit « le progrès scientifique doit fonder une éthique », il a dit ça dans les rencontres internationales à Genève. C'est la science et les progrès de la science au niveau biologique qui doivent fonder une nouvelle éthique. La nouvelle éthique ne peut se fonder que sur le progrès scientifique. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'une éthique peut se fonder sur la science biologique ou sur l'activité artistique? Est-ce qu'elle est, de fait, commandée par l'une ou par l'autre? C'est intéressant parce qu'au fond, c'est les deux extrémités de la philosophie sur lesquelles on touche. Eh bien, je crois qu'on doit dire non à l'une et l'autre de ces tentatives. Parce que l'éthique, si elle nous fait découvrir la finalité profonde de l'homme, on ne peut redécouvrir une éthique que dans la mesure où on a le sens de la finalité. Je ne crois pas qu'on puisse fonder une éthique uniquement au niveau de notre conditionnement humain. ou au niveau uniquement de l'efficacité. C'est impossible. Une éthique ne peut se fonder qu'à partir d'une découverte de la finalité de l'homme. Vous allez me dire pourquoi. Qu'est-ce que c'est que l'opération humaine ? Que représente une opération humaine ? Où avons-nous l'expérience la plus forte d'une opération humaine ? Je crois que c'est dans l'amour d'amitié qu'on a l'expérience la plus forte d'une activité humaine. Et cette expérience de l'ordre de l'amitié me met tout de suite en présence, justement, de ce lien, de cette relation d'une personne à l'égard d'une autre personne. Autrement dit, ne sont vraiment des opérations humaines que celles qui relèvent de la personne humaine et qui me permet de développer le point de vue de la personne humaine. Une activité qui n'est pas en relation directe avec la personne humaine, je ne crois pas qu'elle puisse être une opération typiquement humaine et une opération qui me permette ce dépassement de fonder un sens de ma responsabilité de mes activités et des relations que je dois avoir vis-à-vis des autres. Or, l'activité artistique reste bien une activité humaine. Mais l'activité artistique, elle se finalise par une œuvre. L'œuvre est extérieure à l'homme. Donc, je ne peux pas baser une éthique sur l'œuvre. Puis-je baser une éthique sur l'activité artistique comme telle ? Je dirais, ce sera quelque chose de surajouté, d'accidentel. Étant donné que l'activité humaine, l'activité artistique est ordonnée à une œuvre et pas autre chose. Elle n'est pas ordonnée à faire de l'homme un être moral. Et on voit très bien, la pédagogie, d'une certaine manière, est une œuvre artistique. Elle est ordonnée à faire un être moral. Alors ce petit schéma, on peut le transposer. Mais faisons attention. La pédagogie implique un ordre vers le point de vue de l'homme pour lui permettre de se développer comme homme. Dans toute pédagogie, on doit essayer de développer l'homme dans son propre développement humain. Et donc, on doit chercher les points sur lesquels l'homme peut connaître ce développement. Alors, ça ne veut pas dire du tout que la pédagogie fonde l'éthique. Ça veut dire que la pédagogie aide à l'homme à découvrir l'éthique. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Si quelqu'un comme Nietzsche avait dit « l'art permet à l'homme de se sauver », l'art permet à l'homme de se redécouvrir dans un point de vue primitif. L'art permet à l'homme de redécouvrir une activité qui soit son activité typiquement humaine. Alors vous voyez, l'art serait considéré comme une éducation. L'éducation est là pour permettre à l'homme de redécouvrir ce qu'il est. Évidemment, il peut y avoir une pédagogie qui consiste à dire hein, « faites comme moi ». Alors à ce moment-là, ce n'est pas du tout permettre à l'homme de se redécouvrir. Mais une véritable pédagogie doit permettre à chaque individu d'être lui-même et de se redécouvrir en découvrant ce qui le finalise. Et elle n'est pas du tout quelque chose qui s'impose pour être comme un modèle ou un fondement. Elle découvre au contraire dans l'homme ce qui lui permet d'être lui-même. Alors, ce n'est pas la position de Nietzsche. Pour Nietzsche, c'est l'activité artistique qui est première, qui est fondamentale, et c'est à partir de cette transformation qu'on devrait pouvoir donner une éthique. C'est pas très développé du reste, mais au fond, c'est quand même, je crois, ce qu'il cherchait. C'était ça qu'il voulait. Quand Monod, lui, prend la science, c'est très nettement dans ce sens-là. La science détermine l'éthique. Et donc, c'est pas du tout permet à la nature humaine de redécouvrir l'éthique. Donc, à ce moment-là, vous voyez, l'art et la science seraient quelque chose de plus immédiatement relié à l'homme que l'éthique. Or, si on essaie de comprendre d'une manière traditionnelle ce qu'est l'éthique regarde toujours une opération humaine volontaire, une opération humaine typiquement humaine. Et on essaie de comprendre ce que signifie cette opération humaine et comment elle peut se développer. Donc, ça, il faut toujours partir de quelque chose qui est immédiatement relié à l'homme, et pas médiatement, par l'art ou par la science. Et je crois que c'est le propre à l'éthique, ça, c'est de regarder l'opération humaine dans ce qu'elle a de tout à fait premier. Si donc nous regardons la première partie de l'éthique comme une éthique fondée sur l'amour d'amitié, nous montrant ce qu'est l'opération humaine dans sa première finalité. L'homme est capable d'aimer un autre homme. Et cet autre homme est son bien. Et à partir de ce moment-là, il y a un lien qui se crée entre ces deux hommes qui s'aiment et donc qui ont entre eux des relations d'un type particulier dans l'ordre de l'amour, d'un amour libre, d'un amour de choix, qui fait que à partir de là naît une responsabilité. Une responsabilité que l'ami est responsable de son ami, dans son activité même de choix à l'égard de son ami. Et nous pouvons, à partir de là, essayer de construire, ce que nous avons essayé, une éthique proprement humaine. La seconde dimension de l'éthique serait une éthique de sagesse. De sagesse philosophique. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'éthique religieuse. Et je dis bien, c'est une éthique de sagesse. Pourquoi ? Parce que c'est une éthique qui va présupposer la découverte, au point de vue humain, de la dépendance de l'homme comme créature à l'égard de son créateur. Elle présuppose donc cette situation qui est propre à la sagesse, de regarder l'homme comme dépendant du Créateur. Seule une vision de sagesse permet de dire cela, permet de comprendre, si vous voulez, l'homme comme créature. C'est le propre de la vision de sagesse, puisque j'ai découvert l'existence de l'être premier, je me connais moi-même et j'essaie de comprendre quelle relation existe-t-il entre moi-même et cet être premier. Et je vois que cette relation ne peut être qu'une relation de dépendance et de dépendance radicale à partir de l'acte créateur. Et c'est à partir de cet acte créateur que je découvre cette dépendance radicale, et cette dépendance radicale va exiger, dès que j'en ai conscience, une attitude nouvelle de l'homme à l'égard de son créateur. Et cette attitude nouvelle de l'homme à l'égard de son créateur, c'est ce qu'on va appeler l'adoration. Nous l'avions vu l'année dernière, ça. Et je crois que c'est important un peu d'y revenir pour mieux saisir ce que nous allons voir, le troisième niveau d'éthique, qui sera l'éthique chrétienne. Ce n'est pas la théologie morale, mais c'est l'éthique chrétienne, une troisième modalité d'activité humaine présupposant la foi, présupposant l'espérance et la charité. Mais la foi, l'espérance et la charité sont laissées non pas de côté, mais ce n'est pas ça qu'on regarde en premier lieu. On regarde comment la grâce, qui est la greffe, qui est le levain, doit faire mousser, transformer la pâte humaine et apporte comme un nouveau développement que je peux saisir. Je peux très bien le saisir, cela. Autrement dit, je peux lire à travers la révélation ce que représente l'exigence propre de la vie chrétienne par rapport à l'homme. Comprenons bien. Par rapport à l'homme. Pas par rapport au Fils de Dieu. La théologie morale regarderait le Fils de Dieu qui connaît cette relation particulière avec Dieu au niveau de sa foi, de son espérance et de son amour. Tandis que là, je regarde comment la grâce transforme la nature, comment la grâce permet à la nature de connaître une noblesse nouvelle. Et donc, j'essaie de saisir, si vous voulez, ce qu'on pourrait dire, le surhomme. Je crois ça très important aujourd'hui, parce que, au fond, c'est constamment ce qu'on fait, et on prétend que c'est la théologie. Alors qu'en réalité, c'est la philosophie. Et quand vous regardez le Christ comme un homme supérieur, comme un homme parfait, est-ce que c'est la théologie ? Non. C'est de la philosophie. Et je peux très bien regarder le Christ comme un homme parfait. Je peux très bien essayer de comprendre les activités propres de cet homme. Je peux très bien essayer de comprendre la doctrine de cet homme d'un point de vue purement philosophique. Je le regarde comme homme. Eh bien, je fais la même chose, vous voyez, par rapport au chrétien. Je regarde le chrétien en tant qu'il est un homme qui a été transformé par quelque chose. Il a subi une manipulation particulière. Il a subi une manipulation, il a été transformé, il était dans un milieu particulier. Quelqu'un qui, positiviste, ne croyant à rien, vient visiter un couvent. Ils sont manipulés, ces gens. C'est bien évident. Ils sont très connus, surtout quand on les a connus avant. Ils ne sourient plus de la même façon, une manière de se tenir, quelque chose. C'est le regard extérieur, purement humain, par rapport à une certaine vie chrétienne qui fatalement transforme l'homme. Ça ne peut pas être autrement. Jusqu'à notre regard, jusqu'à notre morphologie, on est changé. Je peux très bien regarder ça de l'extérieur. C'est-à-dire en philosophe. J'ai dit en extérieur par rapport à la foi. Pas de l'extérieur par rapport à l'homme. Ce ne serait plus la philosophie. C'est là où le positiviste ne va pas très loin, mais le philosophe pourrait regarder ça. C'est la même chose qu'on fait quand, au point de vue philosophique, on va visiter un couvent bouddhiste. On essaie de comprendre quelle transformation y a-t-il par rapport à l'homme. C'est la seule chose que je peux comprendre, parce que c'est la seule chose que je reçois. Quand je regarde chez les musulmans, quelle est la transformation de l'homme ? Oui, ce serait très intéressant, là, à voir les diverses modifications de l'homme selon les diverses traditions religieuses. Les modifications de l'homme selon la foi qu'il a. Et c'est ce problème-là que nous allons essayer d'étudier. Je dis, on va essayer, puisque c'est un regard de sagesse, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un regard de sagesse par rapport à l'homme. Alors, le double regard de sagesse, dans la double profondeur, regard de sagesse par rapport à l'homme vu comme créature, regard de sagesse par rapport à l'homme en tant qu'il est transformé par la grâce. Donc, l'homme chrétien. Alors, on passe de registres différents. Alors revenons, si vous voulez, sur l'homme en tant que créature. Puis nous essaierons ensuite de bien voir, même si on l'a déjà vu l'année dernière, je crois que ce n'est peut-être pas mauvais d'essayer de reprendre quelques-uns de ces aspects. L'homme en tant que créature, qu'est-ce qu'il y a de lui comme activité typique que je peux regarder dans un regard de sagesse? Là, c'est plus facile, c'est de la philosophie, hein, mais c'est de la philosophie au niveau sagesse. La philosophie se mue en sagesse au moment précis où la philosophie découvre l'existence de l'être premier. Dès que le philosophe découvre l'existence de l'être premier et qu'il essaie de comparer ce que peut être cet être premier selon sa manière d'exister et l'homme, il est dans un regard de sagesse. Mais il est encore philosophe. Puisque par lui-même, par sa propre raison, il a atteint l'existence de cet être premier. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous voyez, on aurait des traditions religieuses, par exemple, qui nous donneraient une certaine manière d'exister. Je pourrais très bien regarder ça au point de vue philosophique. Ici, je me place non plus dans des traditions religieuses extrinsèques à l'homme, reçues par l'homme comme des opinions, mais je regarde au contraire le point de vue philosophique qui aboutit à l'existence de Dieu et qui, aboutissant à l'existence de Dieu, a un nouveau regard de sagesse, ou plus exactement, un regard de sagesse à partir du Créateur. Et à partir du Créateur, je découvre en moi, c'est la première chose que je dois faire, puisque l'éthique implique une expérience interne, c'est l'ami qui réfléchit sur son amour d'amitié. Alors, pour que ce soit scientifique, il essaie de le regarder dans toute son objectivité, mais une objectivité philosophique, pas l'objectivité scientifique, de science moderne. Et c'est à partir de là qu'il peut découvrir les diverses dimensions, si vous voulez, de ce jugement de sagesse. Dans ce jugement de sagesse, donc à partir du Créateur, je regarde l'homme comme créature. Vous voyez bien la position philosophique. À partir du Créateur, je regarde l'homme comme créature. C'est-à-dire l'homme dans sa totale dépendance à l'égard de l'être premier. L'homme recevant de l'être premier son exister. Il est donc dans cette dépendance radicale, puisqu'il n'existe que grâce au Créateur. Il n'existe que grâce à l'acte créateur. Il est donc dans une totale dépendance à l'égard de l'être premier. Il n'existe qu'à cause de lui. Et il reconnaît, dans sa réflexion sur ce qu'il est, qu'il est lié à cet être premier d'une manière telle que cet être premier est pour lui source d'amour, source de lumière. Il peut donc essayer de se rapprocher le plus possible de cet être premier. Il s'approchera le plus possible de cet acte premier par le point de vue de l'adoration. Je crois que c'est l'acte d'adoration qui est ce qui caractérise en premier lieu le point de vue d'une philosophie, d'une éthique religieuse. Donc d'une philosophie sagesse, éthique religieuse. C'est l'homme qui adore son créateur. L'homme adorant son créateur se relie au créateur. Tout en restant lui-même, sans confusion, il se relie à son Créateur. Il se remet entre ses mains. Il reconnaît qu'il ne peut être parfaitement lui-même que dans cette relation à son Créateur. Parce que, justement, son Créateur, parce qu'il est son Créateur, ne peut pas le détruire. Il le peut, d'une manière absolue. Mais il ne peut pas, étant donné sa sagesse. Et donc, il est en pleine sécurité. C'est pour ça que l'acte d'adoration donne cette sécurité, cette stabilité à la créature. Cet acte créateur développe une nouvelle dimension dans l'homme, dimension qu'on appellera la dimension religieuse. Cette dimension religieuse est essentielle à l'homme. Un homme qui n'est pas religieux, il lui manque une dimension. Évidemment, ceci, face à tous les athées contemporains, paraîtrait complètement absurde. Ça, c'est bien évident. Par rapport au positivisme, c'est complètement absurde. Mais c'est très important, parce que justement, c'est là où on voit combien on est teinté de positivisme. On est tous un peu pris par le point de vue du positivisme. On a beaucoup de peine à découvrir que l'homme n'est parfaitement lui-même que lorsqu'il adore. Qu'à ce moment-là, il atteint une nouvelle dimension, qui est la dimension religieuse. C'est-à-dire la reconnaissance de sa relation à l'égard de l'être premier, qui est son créateur, et qu'il reconnaît, qu'il reçoit tout cet être créateur, son existence, son âme spirituelle, du côté de son intelligence et du côté de sa volonté. Et qu'il est relié à cet être premier, et qu'il peut être relié à cet être premier. Et que dans la mesure où il l'adore, il est relié à cet être premier. L'acte d'adoration n'atteint pas directement Dieu, ce qui fait que l'homme, en adorant, n'a pas l'expérience de Dieu, ce qu'il ne faut jamais oublier. L'expérience de Dieu n'est pas donnée dans l'acte d'adoration. L'acte d'adoration donne uniquement l'expérience d'une dépendance reconnue à l'égard de l'être premier, à l'égard du Créateur. Donc c'est une dépendance humaine. Mon expérience demeure dans l'homme. Par l'acte d'adoration, je demeure dans une expérience qui reste un niveau humain, mais le niveau humain de l'homme retournant vers Dieu, de l'homme acceptant cette dépendance à l'égard de Dieu, la reconnaissant et retournant vers Dieu. Ces actes d'adoration, dans la mesure où ils se multiplient, vont engendrer en nous ce qu'on appelle la vertu de religion. La vertu de religion est une vertu acquise, qui stabilise cette dimension religieuse de l'homme, et qui permet à l'homme donc de découvrir en lui et en lui-même cette espèce de marque à l'égard de l'être premier, une dépendance étroite à l'égard de l'être premier. Et il aime de remonter à cette source première, il aime de reconnaître cette dépendance totale. Il aime d'être proche de celui qui est sa source. Mais comprenons bien la situation au plan philosophique de cette attitude de l'homme religieux qui remonte à sa source. Il remonte à sa source sans connaître ce qu'est son être, l'être premier. Il ne le connaît que négativement et ne peut pas connaître positivement ce qu'est l'être premier. Il accepte donc que l'être premier le dépasse complètement, qu'il ne pourra jamais le rejoindre immédiatement par lui-même, qu'il y a un abîme entre lui comme créature et l'être premier. Il accepte ce hiatus qui fait partie essentielle de l'attitude religieuse. C'est le tremendum. C'est d'accepter que plus il s'approche de cet être premier, plus il est un être qui connaît sa fragilité, sa dépendance. Plus il est un être qui reconnaît sa précarité. Il est totalement dépendant. C'est ce que saint Thomas appelle le vertige vers le non-être. C'est très beau. C'est pas l'angoisse, hein. C'est pas l'angoisse métaphysique, mais c'est ce vertige vers le mal-être. C'est reconnaître que, de fait, on est totalement dépendant. Et que l'exister ne vient pas de nous. Il est totalement dépendant d'un autre. Il est donc reçu. Ce n'est pas notre avoir. L'exister n'est pas notre avoir. Il est. Et il est en nous mettant dans cet état de dépendance. Et c'est en ce sens-là que cette attitude religieuse, qui est une attitude humaine, typiquement humaine, et je dirais d'une certaine manière la plus humaine qui soit, parce que c'est la plus radicale parmi les attitudes humaines, parce qu'elle retrouve le lien avec la source. Cette attitude humaine va donc impliquer, voyez, une profondeur métaphysique. C'est pour ça que je dis que c'est une attitude de sagesse. Que c'est saisir cette dépendance à l'égard de l'être premier. La connaissance métaphysique me permet d'avoir une lucidité dans cette attitude affective. S'il n'y a pas du tout de métaphysique, hein, je n'aurais pas cette lucidité. Et donc, je comprendrai la dépendance au niveau des traditions religieuses. Et si je comprends cette dépendance au niveau des traditions religieuses, je comprends cette dépendance dans une attitude affective au niveau d'une opinion. Sans lucidité du tout. On vous dira pourquoi vous faites ça? Parce qu'on l'a toujours fait. Parce que c'est bien de le faire. Parce que c'est conforme aux traditions religieuses. Parce que c'est, voyez, vous n'avez pas la possibilité de justifier vous-même cette attitude religieuse. Vous ne pouvez la justifier que dans la mesure même où vous comprenez, où vous saisissez ce que c'est que laisser participer. L'être participer. C'est là où on... Peut-être, voyez, c'est une des choses qui nous montre combien la métaphysique est importante. Puisqu'elle permet à l'attitude religieuse de devenir lucide. Elle donne la lucidité à l'attitude religieuse, à cette attitude fondamentale. S'il n'y a pas la métaphysique avant, il n'y a pas de lucidité, il ne peut pas y avoir de lucidité. Je suis dans un état d'enfance, d'imperfection, pour mon acte principal, c'est très ennuyeux, vous voyez. Si je reconnais que l'adoration est quand même quelque chose de capital et d'essentiel à la vie humaine, et que je demeure uniquement dans les traditions religieuses. Mon attitude fondamentale repose sur une opinion. Et tout ce qui repose sur une opinion, nous le savons très bien, a toujours un halo affectif et reste opaque. L'opacité, hein. Vous savez ce que dit saint Thomas, au point de vue philosophique. Que l'autorité est la dernière des raisons. Or, une opinion repose toujours sur une autorité. Une petite autorité, une très petite autorité. Mais ça repose sur quelqu'un qui a vu ça, quelqu'un qui a dit ça, quelqu'un qui a... Donc, vous voyez, autorité. Il a vu, moi je n'ai pas vu. Il a dit, moi je ne savais pas. Donc je suis dépendant. Et c'est sur une autorité uniquement d'expérience. Ou une autorité de tradition religieuse. Donc ça n'a aucune intelligibilité. C'est opaque. Et c'est pour ça que tout de suite, c'est porté par des points de vue affectifs, par des points de vue passionnels. La grande purification de nos attitudes passionnelles, c'est justement de faire que tout ce qui est du domaine de l'opinion devienne une expérience. Alors quand c'est une expérience, c'est l'intelligence. Une intelligence plus ou moins pénétrante, mais une intelligence, c'est tout à fait autre chose. Alors s'il y a justement dans ce domaine une connaissance métaphysique, cette connaissance métaphysique va rendre cette attitude religieuse limpide. elle n'ira plus cette opacité affective. Il y aura quelque chose de lumineux. L'adoration, faisons attention, n'est pas lumineuse, puisque je n'ai pas l'expérience de Dieu. Mais ça permettra à l'adoration d'être le plus lumineuse qu'elle peut être. Elle n'est jamais lumineuse, puisqu'elle repose sur une affectivité, un lien affectif à l'égard de Dieu. Un lien de dépendance, d'amour. Je n'ai pas l'expérience de Dieu. Si j'avais l'expérience de Dieu, alors à ce moment-là, mon adoration pourrait connaître une certaine lumière. C'est ce qui se passera avec la foi, mais comme la foi elle-même implique des ténèbres, vous voyez, ça va encore pas être très lumineux. Enfin, mon adoration ne sera parfaitement lumineuse, je peux le dire en tant que chrétien, que dans la vision béatifique. Alors là, elle sera parfaitement lumineuse. Elle sera illuminée par la vision béatifique. Mais tant qu'il n'y a pas la vision béatifique, l'affectivité qui me relie à la cause première, cet appétit naturel qui me relie à la cause première, reste un appétit fondamental, obscur, puisqu'il ne repose pas sur une expérience. Mais cet appétit peut connaître, cependant, grâce à la métaphysique, une certaine lucidité. Je sais que je dois poser cet acte. Et ce n'est plus commandé de l'extérieur. C'est moi-même qui comprends la nécessité de cet acte, parce que cet acte est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Me relier à ma source première. Et ceci, c'est directement l'apport métaphysique qui permet ça. Oui, ça, je crois ça très important pour essayer de comprendre exactement laisser participer. C'est lorsqu'il est enveloppé de mon amour à l'égard de la cause première, je peux dire qu'à ce moment-là, au point de vue humain, grâce à la métaphysique, parce que laisser participer n'est lumineux que grâce à la connaissance que j'ai de l'essai. C'est la connaissance que j'ai de l'exister qui me donne la lumière de laisser participer. C'est pas le point de vue de laisser participer qui est lumineux par lui-même. Enfin, je vous ai toujours dit, nous n'avons pas d'expérience de laisser participer. Mais nous avons une connaissance de l'exister, au point de vue métaphysique, on peut avoir une connaissance de l'exister, on peut comprendre que cet exister, je le saisis comme participer, à l'intérieur même de mon acte d'adoration, cet essai participé est présent. Cet acte qui reconnaît cette dépendance à l'égard de Dieu va progressivement engendrer en moi cette attitude vertueuse de la vertu de religion. Autrement dit, il y a un habitus qui s'acquiert. Et alors, je serai en présence d'une certaine stabilité, d'une certaine, si vous voulez, certaine joie, parce que c'est le preuve de l'habitus, de donner cette joie, à l'égard de cette attitude qui reconnaît la dépendance totale à l'égard de l'être premier, comme créateur. La confirmation de cela serait, voyez ce que je verrai dans l'Écriture. Premier commandement, un seul Dieu tu adoreras. Ça, c'est aussi très important à voir. La morale qui naît de la loi divine est une morale religieuse. C'est pas une morale qui fait appel à la foi, directement, immédiatement. Elle fait appel à la foi dans le sens où je reconnais que cette morale, que les tables de la loi ont été données par Dieu à Moïse. Ça, c'est de la foi. Mais le contenu de la loi positive, le contenu des tables de la loi, de la Torah, demeure entièrement une attitude religieuse. Et je crois que tout peut s'expliquer par une attitude religieuse. Et alors c'est ça qui est intéressant, parce que ça montre bien que c'est une pédagogie divine. Une pédagogie divine en vue d'autre chose. Et qui demeure en vue d'autre chose. C'est une pédagogie de Dieu pour reconnaître que l'homme est pécheur. Reconnaître que l'homme est pécheur, c'est-à-dire qu'il est facilement celui qui se met dans une attitude d'opposition vis-à-vis de Dieu, une attitude d'orgueil, qui arrête cette attitude fondamentalement religieuse.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.